exact. Aujourd'hui, pour commencer, nous allons parler de politique. Et puis...
Soit même un discours un peu sérieux. Il est grand, il est beau, il est fort. Il est roi et il le sait.
La nuit, au clair de lune, il se tenait caché au bord de la route.
Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur le plateau de...
GTFM
sur le 91.2.
Sonolab. Le Sonolab. L'atelier des sons. Des projets sonores et radiophoniques réalisés avec des écoles, collèges, lycées, des établissements médicaux, sociaux, culturels, de loisirs de 6 ans à 166 ans. Le mercredi et le dimanche à 11h sur JetFM 91.2.
Bien sur Jet FM avec la Colo Radio.
Nous sommes 11 enfants.
Pendant une semaine, nous avons appris à chercher des informations,
faire des prises de son,
interviewer,
faire des micro-trottoirs
et faire un montage.
Pendant cette émission radio, nous allons vous parler du planétarium de Nantes que nous avons eu la chance de visiter. Nous allons aussi vous parler du système solaire.
Êtes-vous bien accrochés à vos sièges? Nous décollons voir Alice et Léane.
Décollage en 3, 2, 1, c'est parti!
Et oui, Antonin, je te reçois 5 sur 5. Nous sommes au planétarium de Nantes. C'est tout ça où on apprend un peu plus de choses sur les planètes. Il y a un monsieur ou une dame qui nous explique les différentes vidéos. C'est un médiateur ou une médiatrice scientifique. Les fauteuils sont inclinés vers le haut pour mieux voir. En gros, c'est presque comme un cinéma, mais en plus réaliste.
Nous, ce qu'on a vu, c'est le système solaire épisode 1 et 2. La première partie nous en apprend un peu plus de choses sur le système solaire, et l'autre nous apprend plutôt les autres choses, comme les comètes, les astéroïdes, les planètes naines. Le planétarium de Nantes existe depuis 30 ans. Dans la salle, il y a 51 places.
Il est ouvert tous les jours sauf le samedi. Pour y aller, il faut payer 6€ et avec réduction 3€. Chaque année, il y a à peu près 43 000 personnes qui y vont.
Ils font aussi des expériences pour les enfants qui ont entre 7 et 12 ans. Nous vous conseillons d'y aller pour apprendre plein de choses sur l'astronomie. Et pour vous donner envie d'y aller, voici un extrait de la séance que nous sommes allés voir sur le système solaire, épisode 1. Et juste après, on passera la parole à Yves.
Longtemps parce qu'on a quelques détails à préciser à propos de la Terre. Premièrement, il ne faut pas mélanger deux choses qui n'ont rien à voir. Ce que c'est qu'une planète et ce que c'est la vie sur une planète. Ce n'est pas du tout la même chose. Si on prend la planète, la Terre, ben, c'est une planète de type rocheuse, c'est exactement la même chose que Vénus, il y a zéro différence. Bon, la température n'est pas la même, ça c'est des petits détails. Ben, pas pour nous qui habitons dessus, là je vous parle de la planète. Donc c'est pareil que Vénus, c'est un peu comme Mercure, avec de l'air autour, parce qu'elle est plus grosse, c'est tout. Seulement, un objet comme ça, c'est pas vivant. Ça veut dire que ça ne peut pas mourir. La Terre est absolument éternelle. Et quand bien même serait-elle heurtée par des astéroïdes, ça ne change rien du tout. Regardez la Lune. Sur la Lune, il y a plein d'impacts, parce que la Lune a été heurtée par des astéroïdes, parfois très gros. La Lune est encore là. La Terre aussi. Donc en fait, rien ne peut détruire une planète comme la Terre. Absolument rien du tout. Par contre, la vie sur la Terre, c'est pas du tout pareil. La vie sur la Terre, ça concerne que la surface seulement. Donc si on prend la croûte terrestre, enfin là où il y a de la vie, plus tout ce qu'il y a dessus, c'est-à-dire les océans, plus tout ce qu'il y a dedans, plus toute l'atmosphère, eh bien, c'est moins épais, c'est moins épais que l'épaisseur du point rouge que je promène là sur la Terre au plafond. Donc vous voyez, la zone habitable, c'est très fin. Et on comprend toute l'atmosphère là-dedans. Et les océans, tout le reste. C'est ça la vie. Donc quand on parle du réchauffement climatique de la Terre, on ne parle pas de la Terre. On parle de juste cette zone-là, à la surface de la planète. Bon, on a quand même un problème majeur. Maintenant, notre problème numéro un n'est pas d'être heurté par hasard par un astéroïde qui pourrait détruire la vie sur la Terre. Non, non, notre problème numéro un maintenant, c'est une espèce à la surface de la Terre. C'est la première fois qu'une seule espèce animale, c'est-à-dire les humains, les sapiens sapiens, c'est-à-dire nous, remplissons toute la Terre. C'est jamais arrivé dans l'histoire de la planète. Donc il va falloir trouver maintenant des nouvelles idées. Parce qu'on n'a pas d'autre solution que de survivre à la surface de la Terre, si on veut survivre, bien sûr. Hein. Parce qu'il n'y a pas d'autre planète qui pourrait nous héberger. Il n'y a pas de solution de remplacement. Il n'y a aucune autre planète qui ressemble de près ou de loin à la Terre dans le coin. Les seules qui pourraient peut-être ressembler à la Terre, c'est celles qui tournent autour des autres étoiles. Bon, on va parler de la distance qui nous sépare des autres étoiles. C'est du débile. On ne peut pas voyager vers ces étoiles. Ça ne nous empêche absolument pas de les regarder de loin, mais on ne peut pas y aller, c'est très différent. Donc de toute façon, la Terre, c'est une barque dans laquelle nous sommes tous embarqués. Et on n'a pas d'autre choix que de survivre à la surface de la planète. Donc c'est à nous de voir si on veut survivre ou pas. Parce que si on n'arrive pas à gérer la planète, eh bien, la population humaine ne survivra pas, c'est tout. Hein. La Terre s'en fiche complètement, la Terre n'a pas besoin de nous, hein. C'est nous qui avons besoin de la Terre. Ne mélangeons pas ces deux choses, hein. Très différent.
Merci les filles. En effet, voici l'interview de Sylvie, l'hôtesse d'accueil du planétarium, que nous avons rencontrée lors de notre visite. Elle nous en dit plus sur son métier. Je vous laisse découvrir tout ça.
Je m'appelle Sylvie. Je travaille donc au planétarium depuis le mois de septembre.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Alors pourquoi ? Parce que l'univers des planètes me fascine, moi. Hein. Moi, je ne viens pas du tout de cet univers-là. J'ai fait des études de langue. Ben, en cherchant du travail, j'ai vu cette annonce et j'ai toujours été fascinée par les planètes. Et donc je me suis dit, hop, c'est l'occasion de postuler. Et voilà, j'ai été prise, même si je n'avais pas de... Parce qu'à l'accueil, on n'est pas forcé de connaître tout sur les planètes. Moi, ça m'intéresse quand même, donc j'ai commencé à lire, à essayer de comprendre un petit peu tout le système, l'univers, le système solaire, tout ça.
Quelles sont toutes les tâches que vous effectuez dans une journée ?
Le matin, quand j'arrive, ben, j'ouvre le planétarium, je réponds au téléphone pour prendre les réservations du public, pour prendre les réservations des écoles. Je reçois le public pour le règlement des séances. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Ben, je compte à la fin de la journée, je fais les comptes.
Êtes-vous seule à faire l'accueil ?
Alors non, on est deux. J'ai un collègue en haut qui on se remplace mutuellement l'un l'autre.
Combien de personnes travaillent au planétarium ?
Alors, il y a 3 médiateurs scientifiques, 2 personnes pour l'accueil et la directrice, ça fait 6.
Combien y a-t-il de visiteurs par jour, donc par an ?
Alors par exemple, aujourd'hui on attend 228 personnes. Alors en sachant qu'on en refuse pratiquement presque autant. Hein. Parce que comme la salle est petite, ben, des gens, y a des gens qui réservent bien avant et là on n'a plus de place jusqu'à la fin de la semaine pour toutes les séances, pratiquement tout est complet.
Combien d'appels recevez par jour ?
Oh ben là c'est variable aussi, hein. Pendant les vacances scolaires on en reçoit énormément. Je dirais peut-être une cinquantaine, même un peu plus. Hein. Des fois ça n'arrête pas de sonner en début de vacances. C'est un peu plus calme pendant les périodes scolaires. On a les écoles, mais le téléphone sonne beaucoup juste avant le week-end et pendant les vacances scolaires. Et le dimanche, énormément le dimanche.
Combien d'écoles ou d'élèves viennent au planétarium par an ?
Beaucoup, hein, puisque oui, quand pendant les périodes scolaires, il y a 4 tranches horaires où on accepte les groupes et c'est souvent presque complet, surtout pour les sorties scolaires pour le mois de mai et juin. Là, c'est quasiment complet.
Quelle animation proposez-vous en dehors des séances au planétarium ?
Pendant les vacances scolaires, il y a des ateliers pour les enfants, deux ateliers par semaine, le mardi et le jeudi, où là, on accueille une douzaine d'enfants et par le biais d'un petit bricolage, on explique un thème. Donc là, pendant ces vacances, c'était sur le thème de la Lune, les différentes phases de la Lune.
Est-ce que les pierres qui sont dans la vitrine, ce sont des vraies ?
Ah oui, elles sont toutes vraies, même les grosses là, les grosses météorites, elles sont toutes vraies, authentiques.
Rêvez-vous d'aller dans l'espace ?
Oui. Alors là, oui, ça c'est... j'aurais aimé, hein, là, moi. Là, je pense que c'est très, très difficile d'y aller, hein, quand on voit Thomas Pesquet, l'homme que c'est, hein, il a dû apprendre le russe, il parle plusieurs langues, il est un sportif, hein, il est parfait, hein, cet homme-là. Hein.
Et pour finir, êtes-vous dans la Lune parfois ?
Oh, souvent, oui. Très souvent.
Tout de suite, nous allons vous présenter le micro-trottoir réalisé avant la séance du planétarium. Le micro-trottoir est une petite interview où l'on pose des questions à des gens inconnus dans la rue. Les questions ont été réalisées en avance. Nous avons eu plein de réponses différentes. Voici la réponse. Pourquoi vous venez au planétarium ?
Eh bien, on vient au planétarium avec notre petite fille pour lui expliquer un peu le fonctionnement des planètes.
Bah, c'est pour voir un peu des choses sur les planètes.
Bah, pour faire découvrir les planètes à mes petites filles. Parce qu'on veut partir dans l'espace.
Pour montrer à ma petite fille les étoiles, les planètes et puis tout ce qui se passe dans le ciel.
Pour aller regarder les planètes et découvrir les systèmes solaires.
On est des volontaires, du coup on a amené des enfants, c'est une animation pour les enfants.
Je suis venue au planétarium pour la première fois pour ma petite fille, et puis avec mon grand garçon qui connaît déjà, et puis on trouve ça très intéressant, donc on revient.
Que pensez-vous du bâtiment extérieur ?
Il peut être amélioré. Esthétiquement, il n'est pas très joli, c'est vrai que les gens ne le voient pas toujours très bien.
C'est très bien, il est bien situé et pour se garer c'est très pratique et il est bien indiqué.
Il passe un peu inaperçu de ce côté-là. De l'autre côté on voit la rotonde, mais de ce côté-là, bon, oui, moi je le trouve un peu inaperçu.
Pour moi il est très 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 bien, facile d'accès.
Eh bien on était dans le petit parc, c'était très agréable, des choses intéressantes. Et puis sinon c'est un quartier agréable ici.
Il est bien, on peut visiter beaucoup de choses et ben voilà.
En fait, c'est pas ça que je viens voir, hein. Moi je viens bien voir plutôt l'intérieur, donc peu importe.
Rêvez-vous d'aller dans l'espace ?
Bah oui, pourquoi pas ?
Oui.
Pourquoi pas ? Mais j'ai peur d'avoir un peu le vertige quand même.
Non, pas vraiment. Pas vraiment.
Ah bah oui, nous on a pris nos billets aujourd'hui parce qu'on pense que on va aller tout de suite à la NASA.
Pensez-vous qu'il y a une forme de vie ailleurs ?
Je ne sais pas.
Je disais que peut-être dans une autre galaxie, il y avait d'autres formes de vie.
Mais peut-être dans la nôtre aussi, hein. Oui. Peut-être, hein, peut-être.
Non, je crois pas. Moi, je crois pas.
Non.
Non.
Peut-être.
Oui, je pense.
Oui, je pense vraiment, oui.
Et vous, êtes-vous parfois dans la Lune ?
Oh ben, souvent.
Sans arrêt. Elle est sans arrêt dans la Lune. Moi pas, mais elle.
Oui, tous les jours. Tous les jours. Très bonne question, ça.
Oui, tout le temps.
Non.
Souvent.
Oh, ça peut arriver, comme à tout le monde.
Souvent.
Oui, souvent,
oui. Oui, ça m'arrive.
Oui, ça m'arrive.
Passons maintenant à l'interview de Vincent Jean-Victor. Il est médiateur scientifique. C'est lui qui présente les séances et qui nous balade dans l'univers avec ses ordinateurs. Il a choisi ce métier car il est passionné par l'astronomie et il aime beaucoup raconter des histoires aux gens. Nous lui avons posé quelques questions sur le planétarium. On vous laisse écouter l'interview. En quelle année et qui a créé le planétarium et pourquoi ?
Alors le planétarium, en fait, c'est un équipement culturel public. Ça veut dire que c'est un équipement qui appartient à la collectivité. Donc, en l'occurrence, c'est la ville de Nantes qui l'a fait construire Donc c'était en 1980. Hein, il a ouvert en 1981, le planétarium. Et à ce moment-là, eh bien, c'était une volonté politique, c'est-à-dire que c'est les élus, le maire et le conseil municipal qui ont dit « on voudrait avoir un équipement culturel, quelque chose qui permette aux gens d'apprendre des choses, de comprendre ». Et dans cet esprit-là, eh bien, ils ont décidé de créer un planétarium pour que les gens soient sensibilisés à l'astronomie. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis le planétarium, ben, il a évolué avec le temps. Donc au début, c'était un système qui projetait juste des étoiles. C'était simplement un projecteur d'étoiles. Et puis de fil en aiguille, au fur et à mesure du temps, ben, la technologie a évolué. Et à partir de 2005, eh bien, c'est devenu un planétarium numérique. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir juste un projecteur d'étoiles, on avait des projecteurs vidéo. Et on pouvait commencer à projeter des images qui étaient créées par un simulateur. Et donc on peut se promener maintenant dans le système solaire ou dans l'univers où on veut en fait. On peut se déplacer dans un environnement, alors qu'avant on était sur Terre et on regardait les étoiles. Quoi. Voilà. Donc ça s'est amélioré de ce point de vue-là.
Comment faites-vous pour faire bouger et avancer les planètes ?
Alors, je ne fais pas bouger et avancer les planètes, mais moi, je bouge par rapport aux planètes. D'accord ? Donc, les planètes, elles sont intégrées dans un... c'est un simulateur, hein, un simulateur, comme quand on joue avec un jeu vidéo, on est comme dans un simulateur, on est comme si on était au volant d'une voiture, par exemple, et puis on se promène dans un environnement. D'accord ? Et puis, si on sort de la route, souvent, par exemple, bah, y a des barrières pour nous empêcher d'en sortir. Hein, mais on pourrait imaginer que, ben non, on peut aller plus loin et puis on peut s'échapper comme ça. Ben là, c'est la même chose, sauf que notre simulation à nous, c'est pas un monde imaginaire, c'est le monde tel qu'il est, avec les planètes autour du Soleil, avec les étoiles dans notre galaxie, avec d'autres galaxies en dehors de notre galaxie, et donc on peut se promener dans tout cet environnement-là. Donc après, c'est un logiciel spécial qui permet de dire bah, « tiens, je veux aller de tel endroit à tel endroit en tant de secondes, etc. etc. » D'accord ? De dire « je veux aller de la Terre à la Lune en 60 secondes et hop, on va faire le mouvement de la Terre à la Lune en 60 secondes. » Alors, la solution, on appelle ça une solution en fait, hein, la solution qu'on utilise, c'est-à-dire l'ensemble de la projection, les ordinateurs qu'il y a derrière, le logiciel qui fonctionne, etc. C'est une solution qui est proposée par la société RSA Cosmos, qui est une société qui fabrique des planétariums. Alors, il y a trois grands fabricants dans le monde. Et donc RSA Cosmos, c'est une société qui est basée à Saint-Étienne, hein, donc en France, dans la Loire, et les deux autres sociétés, le numéro 1 et le numéro 2 mondiaux sont aux États-Unis, et le numéro 3, c'est RSA Cosmos, qui est donc à Saint-Étienne. Et c'est cette solution-là qui a été retenue pour le planétarium de Nantes. Donc c'est eux qui ont fabriqué le logiciel, et ce logiciel, nous, on l'utilise pour montrer aux gens. Voilà.
Comment êtes-vous au courant de l'actualité du système solaire ?
Ah, l'actualité du système solaire, on peut la suivre assez facilement sur Internet, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont données, et donc si on sait à quel endroit chercher, on peut mettre des alertes aussi, et puis dire, tiens, j'ai des informations qui me sont données comme ça régulièrement. Après, il y a aussi des revues auxquelles on est abonné, donc on peut s'intéresser de cette façon-là. Des fois, quand on veut voir avec un peu de recul des choses qui étaient l'actualité il y a 4 ou 5 mois, des fois, on ne retrouve plus sur Internet les détails de tout ça, et en cherchant dans des revues un petit peu plus anciennes, on peut retrouver des choses. Par exemple, moi, tu vois, hier, je cherchais pendant combien de temps est-ce que Thomas Pesquet, dans sa fusée, là, quand il est parti pour aller dans la station spatiale, pendant combien de temps il a dû subir une accélération qui était très désagréable. Tu sais, quand on a l'impression d'être très lourd, on est plaqué sur son siège. Je voulais savoir pendant combien de temps ça avait duré. Et j'avais du mal à trouver cette information. Et je l'ai trouvé finalement en cherchant une revue du mois de décembre dernier où ils expliquaient le détail de son décollage. Et à ce moment-là, j'ai trouvé cette information. Voilà, par exemple. Hein. Et puis, à côté de ça, on a aussi des contacts parfois avec les scientifiques. Parce que les scientifiques sont des gens qui sont très accessibles souvent. C'est des gens qui ne sont pas connus. Donc tout le monde ne leur demande pas un selfie ou un autographe, tu vois. C'est pas des gens, quand on les croise dans la rue, on ne sait pas qu'ils sont spécialistes de leur domaine. Donc quand on a des questions à leur poser, souvent, ils répondent très facilement. Je peux très bien appeler un scientifique qui va être le spécialiste de la planète Mars, par exemple, celui qui connaît le plus de choses sur la planète Mars, et lui poser des questions. Il est souvent très accessible, alors que, tu vois, par exemple, Thomas Pesquet ou des gens comme ça, eux, c'est plus des stars, quoi, hein, ils sont très connus. Donc, évidemment, tout le monde veut leur parler, tout le monde veut un selfie, tout le monde veut un autographe, et donc c'est plus compliqué. Hein, mais il y a beaucoup de domaines dans lesquels on arrive à avoir des informations comme ça. Et par exemple, à l'Université de Nantes, il y a le laboratoire de planétologie et de géodynamique, qui est un endroit prestigieux, en fait, hein, où il y a des scientifiques qui travaillent pour récolter les données qui proviennent des sondes martiennes ou d'autres choses. Hein, d'autres, et donc, on a des informations, des fois, on peut, quand il y a des choses qu'on ne comprend pas, par exemple, sur des données qu'on a reçues, qu'on a pu voir dans les médias ou des choses comme ça, ou qu'il y a des informations qui nous semblent pas correspondre avec ce qu'on a vu avant, ben on peut les appeler ou leur envoyer un petit mail en leur disant, disons que je ne comprends pas ça, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on dit ça maintenant alors qu'avant on disait ça. Et en général, on arrive à avoir des explications claires et intéressantes, quoi. Alors des fois, c'est juste dire non, mais avant, on s'était trompé, on ne savait pas. Alors, du coup, on modifie, on rectifie.
Nous avons vu qu'en 2024, une mission japonaise et française permettrait de rapporter des échantillons de Mars sur Terre. En savez-vous plus ?
Les informations que j'ai, elles ne sont pas... Non, je ne peux pas en dire beaucoup plus. J'ai pas beaucoup de... Ça fait longtemps qu'on en parle de cette mission. Mais voilà, pour l'instant, on en parle de cette façon-là. C'est-à-dire, on dit on va envoyer une sonde qui va récolter des échantillons et les ramener. Bon, ça fait longtemps qu'on en parle. Après, les détails de la mission, pour l'instant, ce n'est pas important. Hein, on s'y intéressera en 2020, 2022. On commencera à regarder d'un peu plus près, décortiquer. Et plus on s'approche du moment où on fait les choses, et plus on va chercher dans les détails. Voilà, c'est l'information importante pour l'instant. Après, on n'en est pas à savoir à quelle minute, quelle seconde la fusée va décoller, depuis quel endroit elle va décoller, combien de temps elle va mettre à y aller, etc. etc.
Que pensez-vous du tourisme spatial ?
Le tourisme spatial, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que le tourisme spatial, on peut dire que c'est un moteur. C'est un moteur pour faire progresser les choses. Je m'explique. Si, par exemple, il y a beaucoup de gens qui veulent aller dans l'espace, on va pouvoir inventer des nouvelles choses parce qu'on sait que ces gens-là vont payer beaucoup pour pouvoir aller dans l'espace. Et donc, on va pouvoir investir dans des nouvelles technologies, des nouvelles choses qui vont permettre d'améliorer les choses. On veut envoyer des gens dans l'espace parce que ces gens-là ont de l'argent pour aller dans l'espace. Ils sont prêts à dépenser des millions pour aller dans l'espace. Alors on dit, on en profite, ok, d'accord, vous allez dépenser combien ? 50 millions, d'accord, ça veut dire que je dis n'importe quoi, hein, c'est un exemple, voilà, donc ça veut dire que je peux fabriquer quelque chose qui va coûter 40 millions, j'aurai toujours 10 millions que je vais récupérer, donc ça c'est intéressant, donc je vais pouvoir investir cet argent. Si par contre, je le fais juste pour la science, il n'y a personne qui va me payer derrière, donc il faut que j'ai de l'argent. Il faut que l'État ou les États en général, enfin que les pays aient de l'argent à dépenser là-dedans, sachant que ça ne va pas forcément leur rapporter des choses dès demain, quoi. Hein, donc ça va rapporter des technologies, mais...
Est-ce que vous aimeriez aller dans l'espace ?
Ah oui, j'aimerais beaucoup aller dans l'espace, mais je ne me fais pas d'illusions, hein, parce que j'ai ni les moyens, ni les capacités pour être astronaute. Voilà, c'est-à-dire que pour être astronaute, il faut un certain nombre de... Il faut une condition physique qui est bien... bien. Il faut être en très bonne santé. Il y a des tas de choses qui peuvent être compliquées pour un astronaute, pour sa santé, quoi. Et donc, il faut subir des tests médicaux très poussés. Je suis pas sûr d'arriver à avoir tous ces tests médicaux comme il faut. Hein, peut-être que je vais être trop gros ou trop ci ou trop ça, j'en sais rien. Mon corps sera pas capable de supporter ce qu'on demande. Il faut être très sportif, hein, pour ça. Et puis, faudrait que je sois choisi. Ça, c'est autre chose. Hein, c'est plus compliqué. Ou alors que j'ai beaucoup d'argent et que je sois capable d'être un touriste spatial. mais pour l'instant, je ne suis pas suffisamment riche pour partir dans l'espace. Donc, je ne me fais pas trop d'illusions. Hein, voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont dans l'espace. Hein. Depuis qu'on a commencé à envoyer des hommes dans l'espace, il y a 530 personnes, à peu près, ou 550 maintenant presque, 550 personnes qui sont allées dans l'espace. C'est très peu. Alors, depuis qu'on a commencé à envoyer des hommes dans l'espace, il y a eu à peu près 10 milliards d'habitants sur la Terre. Donc, sur 10 milliards d'habitants, il y a 550 personnes qui sont allées dans l'espace.
Et pour finir, êtes-vous parfois dans la Lune ?
Tout le temps. Moi, je suis tout le temps dans la Lune. Alors, des fois, j'y suis pour mon travail et je suis concentré sur la Lune ou les planètes. Alors, je peux dire que je suis dans la Lune, mais je suis aussi assez distrait, c'est vrai. Je suis capable d'oublier des choses. Par exemple, ce matin, quand je suis arrivé, j'ai vu tout ce monde. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que tout ce monde-là ? Qu'est-ce qu'ils font là ? Il dit, ah si, c'est vrai. C'est vrai qu'on a une interview. Donc, voilà. Donc, oui, je suis souvent dans la Lune, c'est vrai. Ouais, ouais.
Maintenant, je vais donner la parole à Emma, Antonin et Alice pour qu'ils donnent. Alors, c'est parti. Maintenant, je vais donner la parole à Emma, Antonin et Alice pour qu'ils donnent leur avis sur le planétarium. Qu'est-ce que vous avez pensé du bâtiment extérieur ?
Je pense que le bâtiment extérieur pourrait être amélioré parce que quand on passe devant, on ne distingue vraiment pas. Bah, il n'est pas visible, on ne peut pas le reconnaître.
Moi, je trouve qu'il est beau, il est classe, quoi.
Moi, plutôt, je trouve qu'il n'est pas très très joli de l'extérieur.
Vous en avez pensé quoi de la séance ?
Moi, j'ai adoré la séance. À des moments, ça avait bugué, mais autrement, c'était vraiment cool.
J'ai bien aimé. Les sièges étaient assez confortables.
J'ai bien aimé la séance. C'était très réaliste.
J'ai eu l'impression d'être dans un avion.
Bon, alors là, on va faire pause. Attention. C'est parti.
Maintenant, je vais donner la parole à Emma, Antonin et Alice pour qu'ils donnent leur avis sur le planétarium. Qu'est-ce que vous avez pensé du bâtiment extérieur ?
Alors moi, je pense que le bâtiment extérieur, il pourrait être amélioré parce que quand on passe devant, on ne le distingue pas vraiment.
Je suis d'accord avec toi, Emma. Il n'est pas vraiment très bien situé.
Je trouve qu'il est beau, moi, contrairement à elle. Il est classe, quoi.
Je trouve que le bâtiment n'est pas très joli de l'extérieur.
Vous en avez pensé quoi de la séance ?
Alors moi, j'ai adoré la séance. À des moments, ça avait bugué, mais autrement, c'était vraiment cool.
J'ai bien aimé. Les sièges étaient assez confortables.
Moi aussi, j'ai bien aimé la séance. C'était très réaliste.
C'était bien. J'avais l'impression d'être dans un avion.
Est-ce que la séance est adaptée pour des enfants de 9, 10, 11 ans ?
Alors moi, je trouve que les enfants pourraient comprendre s'ils l'expliquaient avec plus de détails pour que les enfants ils comprennent mieux.
Oui, c'est bien, mais il parle, comme tu dis, Emma, trop vite.
Moi, justement, je suis pas très d'accord avec toi, Emma. C'était bien adapté pour les enfants, ils comprenaient bien.
Je suis d'accord avec toi et moi, je dis oui aussi, car c'est très instructif.
Et vos places, elles vous ont plu ?
Moi, j'ai trouvé que les sièges arrière, ils faisaient mal au cou quand on regardait l'image derrière nous.
Moi aussi, je trouvais que c'était pas très confortable et ça faisait mal à la nuque.
Ouais, je suis d'accord avec toi, Emma, ça faisait mal au cou.
J'avais eu mal aux fesses, moi.
Je vais rebondir sur ce qu'a dit Emma. Avant la question, vous en avez pensé quoi de la séance ? Tu avais dit que le siège était très confortable. Et là, tu dis qu'ils font mal au cou.
Bah, je les trouve... les sièges sont confortables. Oui, mais c'est quand on regarde en haut, ça fait mal au cou, au bout d'un moment.
D'accord. Et pour finir, êtes-vous des fois dans la Lune ?
Oui, très 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 souvent. Chez moi aussi, quand je suis dans la Lune, je fais plein de bêtises.
Oui, surtout à l'école, en classe.
Moi aussi en classe.
Oui, quelquefois.
Merci les filles, Antonin. Et maintenant, nous allons passer aux avis des gens, des personnes du micro-trottoir après la séance.
Non, ça ne veut pas dire grand-chose.
Merci les filles et Antonin. Là, c'est enregistré ? Merci les filles, Antonin. Maintenant, on va passer aux avis de personnes qui ont déjà vu la séance du micro-trottoir. Maintenant, on va faire un micro-trottoir. Ah. On peut couper. Donc on a fait un... j'ai oublié le truc. Merci les filles, Antonin. Et maintenant, on a fait un micro-trottoir et on va écouter l'avis des gens après la séance.
Qu'avez-vous pensé de cette séance ?
C'est très intéressant, c'est bien adapté aux enfants en plus, et aux grands évidemment. Donc ça explique bien le système solaire.
Bah, c'était bien et les planètes, elles étaient bien construites, enfin... C'était bien photographié.
Bah, c'était bien, c'était intéressant. C'est passé vite.
Alors moi j'ai adoré, je ne sais pas si vous avez aimé.
Oui, moi aussi j'ai bien aimé.
Oui, c'était très bien.
Pareil, c'était super bien.
Qu'avez-vous préféré ?
Quand on est sorti de la galaxie.
Le décollage ou l'atterrissage, parce qu'on décolle et puis on atterrit. Donc j'ai bien aimé, visuellement c'est hyper impressionnant.
Décoller et voir les planètes.
Bah, la fin aussi, c'était sympa sur les constellations.
Alors, j'ai beaucoup aimé on a vu le temps qu'il fallait pour aller d'une planète à une autre dans un même système. Parce que du coup, on se rend compte que pour aller dans une autre galaxie, on n'est pas rendu. Hein.
Bah, moi, j'ai beaucoup aimé la carte où on voyait toutes les galaxies.
Moi aussi.
Qu'est-ce que vous avez appris en assistant à cette séance ?
Plein de choses. Tout type de planètes, solides, gazeuses. Enfin, même si je l'avais vu à l'école beaucoup plus jeune, j'avais oublié beaucoup de choses. Donc ça nous a rappelé plein de belles choses sur notre système solaire. Et puis qu'on n'était peut-être pas tout seul.
Ah bah, plein de choses. Les planètes rocheuses, les planètes gazeuses. Comment elles étaient faites, là où on pouvait vivre, là où on pouvait pas vivre, celles qui ressemblaient à la Terre, voilà. Et toi, qu'est-ce que t'appelles ?
Bah, plein de trucs, tout, hein. Ouais, de tout.
Chose simplement d'une graine déposée dans son ventre pour qu'elle devienne pleine. Ça fout tout ce qu'elle a pu nous donner, des fleurs, des fruits, de l'eau, du soleil pour l'été. Elle a mis des étoiles dans le fond de la mer, du vent dans les voiles, des oiseaux dans les airs. Elle a inventé des êtres si différents, allant des bactéries jusqu'aux gros éléphants. Merci à ma planète, j'aime comme elle est faite. Merci à ma planète, j'aime comme elle est faite. Elle t'a donné la vie des rires et des pleurs, t'a remis une palette de toutes les couleurs. Elle s'est faite discrète, jolie petite planète. Et toi tu marches sur son dos, tu roules sur sa tête. Merci,
merci
à ma planète. J'aime comme elle est faite. Merci,
merci
à ma planète. J'aime comme elle est faite. Merci,
merci
à ma planète. J'aime comme elle est faite. Merci,
merci
à ma planète. J'aime comme elle est faite. Si des hommes inconscients viennent nous l'abîmer avec leur détergent, leur poison, leur déchet, elle peut compter sur moi, moi je la défendrai. Je planterai des arbres, je la protégerai. Je nettoierai ses plages, je la surveillerai. Je garderai son nom, je la préserverai. Merci,
merci
à ma planète. J'aime comme elle est faite.
Merci,
merci à ma planète. J'aime
comme elle est faite.
Merci,
merci
à ma planète.
Vous venez d'écouter une petite pause musicale et écolo avec Touche pas ma planète de Dominique Dimet. Et maintenant, nous allons parler des infos sur l'astronomie. Je vais vous parler des planètes. Allez, je vous embarque. Notre système solaire est composé du Soleil et de planètes qui tournent autour. Il y a dans l'ordre de la plus près à la plus éloignée du Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et enfin Neptune. Les satellites qui tournent autour de Jupiter, Saturne et la Terre sont la Lune, Vesta, Tétis, Callisto, Europe, Io, Titan, Triton et bien d'autres. Et nous avons aussi nos planètes naines, Pluton, Cérès, Makemake, Oméa, Sedna, Quaoar. En janvier 2015, des astronomes observaient d'étranges effets gravitationnels sur les objets de la ceinture de Kuiper, qui est une ceinture de météorites se situant après Neptune, la dernière planète. Ces effets ne pouvaient pas être liés à aucune des 8 planètes connues à ce jour dans le système solaire. Les astronomes suggéraient alors la présence d'une 9e planète, à une distance environ 75 fois plus éloignée que Pluton du Soleil, qui ferait un tour complet du Soleil en 20 000 ans. Au moins 10 fois plus massive que notre planète, l'hypothétique planète n'émettrait que très peu de lumière, d'où les difficultés rencontrées pour la repérer.
Nous, on voulait vous parler de la lune rousse, qui est une lune qui porte une couleur rouge une fois dans l'année. Cette année, notez bien dans vos agendas que la lune rousse débutera le 26 avril et se terminera le 25 mai.
Cette couleur rousse est due à un phénomène optique de diffusion de la lumière qui se produit durant les éclipses de lune. La lune prend une apparence rousse à chaque fois qu'elle est basse sur l'horizon, car la lumière du soleil qui l'éclaire est filtrée en passant au travers de l'atmosphère terrestre. Passons maintenant à l'interview de Vincent Jean-Victor, il est médiateur scientifique.
Yves aussi, tu avais quelque chose à nous dire ?
Je vais maintenant vous parler d'une nouvelle exoplanète qui a été découverte. Une exoplanète, une planète en dehors du système solaire. 3500 planètes ont été trouvées en dehors de notre système solaire. On imagine déjà y habiter. Une nouvelle étoile naine ressemblant curieusement à notre Soleil a été découverte. Elle est située à seulement 39 années-lumière de nous, ce qui fait 370 milliards d'années de kilomètres. À la vitesse de la lumière, le voyage prendrait près de 40 ans. En prenant un avion, cela prendra 45 millions d'années. L'agence spatiale américaine, la NASA, a annoncé mercredi 22 février 2017 qu'au moins 7 planètes qui ressemblent à la Terre tournent autour d'une étoile voisine. 3 d'entre elles sont situées dans la zone habitable de ce système planétaire. En effet, elles reçoivent assez d'énergie des étoiles, mais pas trop. La présence d'eau liquide à leur surface permettrait l'apparition de la vie. On a observé l'apparition de la vie. On a observé que des mouvements entre galaxies sont organisés comme de l'eau en courant. Nous ne sommes certainement pas les seules civilisations dans l'univers. Vous avez pensé aux extraterrestres ?
Mars. En 2024, une mission d'exploration spatiale franco-japonaise s'envolera pour Phobos, une des deux lunes de la planète Mars. Les deux pays ont signé un accord lundi 10 avril à Tokyo. Un atterrisseur envoyé par le Japon récupérera quelques grammes du sol du satellite, dont la composition est très voisine avec celui de la planète rouge, puis le rapportera sur Terre. La France, elle, fournira les instruments nécessaires à cette mission. Où se poser sur Mars ? Il faut un sol riche, pentu, pas trop pentu, à l'abri du vent. Deux sites d'atterrissage sur Mars ont été choisis pour accueillir le robot mobile européen. Depuis près de 4 ans, les partenaires de la mission ExoMars, prévue pour 2020, l'Agence européenne spatiale ESA et l'Agence spatiale russe Roscosmos recherchent le lieu idéal pour poser leur robot espion. Vivement en 2024 pour en savoir plus. Maintenant, je vais vous parler de Pluton. Les récentes nouvelles annoncées par la NASA suggèrent que le cœur glacé de Pluton abriterait un océan gigantesque. Des milliers de ces planètes naines dans l'espace, loin lointain pourrait également contenir ce type d'océan exotique. Mais alors, pourrait-il y abriter la vie ? Si vous pouviez aspirer tout le contenu de cet océan, vous pourriez modeler une sphère d'environ 1200 km de large qui engloberait environ 75% dans l'ensemble du réservoir d'eau liquide de la Terre. La question est aujourd'hui de savoir de quoi cet océan est constitué. Les recherches continuent.
Merci à tous pour ces infos. Et voici la chanson Space Unicorn, la licorne de l'espace, pour vous mettre de bonne humeur. Space Unicorn.
C'est l'heure du micro-trottoir sur les connaissances du système solaire. Nous avons interrogé des gens dans la rue pour voir s'ils avaient bien écouté en classe, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
Pour vous, c'est quoi le système solaire ?
C'est un ensemble de planètes, d'étoiles.
Des planètes qui gravitent autour d'une étoile, donc chez nous, le Soleil.
C'est tout ce qui regroupe toutes les planètes dans l'espace.
D'accord. Et il y a combien de planètes dans le système solaire ?
9.
À ma connaissance, il y en a 8.
Aucune idée des milliards.
Je sais plus.
Il y en a 8.
8, d'accord.
Savez-vous quand le soleil va s'éteindre ?
On m'a dit que c'était dans à peu près 5 milliards d'années.
Dans des millions d'années ?
Un milliard d'années ?
Non, plusieurs millions d'années, non.
Et c'est quoi la plus grosse planète du système solaire ?
Je dirais la Terre, non ?
Pluton ?
Non ?
C'est Jupiter.
Si vous n'avez pas trouvé les réponses chez vous, les voilà. La première question, c'était qu'est-ce que le système solaire ? Le système solaire est un ensemble de planètes qui tournent autour d'une étoile. La nôtre, c'est le Soleil. La deuxième question, c'était combien y a-t-il de planètes ? Il y en a 8. La troisième question, c'était quand le soleil va-t-il s'éteindre ? Donc, dans 5 milliards d'années. Et la dernière question, c'était quelle est la plus grosse planète du système solaire ? C'est Jupiter.
Et voilà, c'est la fin de cette émission.
Merci à tous de nous avoir écoutés. On remercie
les trois Emma,
Léane,
Alice,
Florian,
Yves,
Antonin,
Eliana,
Chardine,
Alwen,
et bien sûr, le Planétarium et toute l'équipe. Nos animateurs, Anna, Antoine, Cécile et Julie de Diat FM et enfin la CCAS. Attention à l'atterrissage, ça va secouer.
Au revoir!
We'll be right back.
Retrouvez tous les projets du Sonolab sur le www.sonolab.fr ou sur JetFM 91.2.